Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce On ne touche pas à mon grisoupod, le footpod, donc spécial Coupe du Monde où aujourd'hui on va s'attarder sur la troisième journée des groupes A à D et donc évoquer donc déjà 4 huitièmes de finale puisque les premiers rencontrent les seconds. Premier poule A, second poule B, second poule A, premier poule B et idem pour la poule C et D, donc on connaît l'adversaire.
Oh, j'ai cru que t'allais le refaire. Oh, ça me déçoit.
On connaît l'adversaire de la France, mais d'abord.
Et pas celui de l'Islande.
Oui, non, mais d'abord, j'étais en train de dire qu'on allait peut-être, hein, je dis bien, peut-être s'attarder sur le groupe A. Ah ah, t'as envie, hein. Moi, que tu veuilles démarrer par le groupe B, hein, vu que...
Non, on peut s'attarder sur le groupe A, ça va très bien.
Vu que dans l'ordre de diffusion, la FIFA a décrété qu'elle pouvait inverser des groupes,
fait jouer le groupe sur les calendriers FIFA avant que le tirage au sort n'ait lieu. Donc.
Oui, mais bon, ça excuse pas quand même que voilà. Bref, l'Uruguay a tapé la Russie 3-0.
L'Uruguay a simplement calmé la Russie. Hein,
voilà. Clairement. Après, c'est dommage, hein, parce que j'aurais bien aimé terminer premier du groupe B, hein, pour rencontrer la Russie. Mais après, oui, voilà, c'est quand même un beau reflet de la faiblesse donc de l'Arabie Saoudite, mais ça, on s'y attendait. Et de l'Égypte, qui s'est donc fait taper 2-1 par l'Arabie Saoudite. Hein,
L'Égypte, tout le monde disait « Oui, mais ils vont sortir avec les honneurs, Mohamed Salah va passer... »
Honnêtement, je pensais qu'au moins, ils battraient l'Arabie Saoudite. Quoi.
Ça montre bien que l'Arabie Saoudite était loin d'être ridicule, et je pense que la bonne surprise est plutôt du côté de l'Arabie Saoudite que l'Égypte est une mauvaise surprise.
Oui, c'est un peu comme quand on en parlera tout à l'heure, quand on en parlera, c'est l'Iran. L'Iran aussi a été une bonne surprise, mais je vais être franc là, j'ai regardé aucun match de ce groupe, mais alors aucun en entier.
Moi je les ai presque tous vus et franchement, les matchs russes sont très sympas à voir parce qu'il y a des buts, mais Russie Arabie Saoudite. Moi, je trouve que les Saoudiens ont pas démérité.
Mais ils ont lâché les 10 dernières minutes, quoi.
Enfin... Et voilà, et ils étaient cuits, quoi. Mais ils ont pas démérité. Ils ont tenté d'avoir des occasions. C'est.
Après, tu vois bien que la Russie, c'était du feu de paille, quoi. Ils avaient tout misé sur les deux premiers matchs, sachant que c'était les deux à leur portée, leur objectif.
Et ils l'ont bien fait.
Leur objectif était de sortir de la poule, quoi.
On peut pas dire qu'il y a eu de vol arbitral sur les deux premiers matchs russes. Donc,
Oui, mais en fait, leur football était dans un tel état, je crois qu'ils étaient sur je sais plus combien de défaites d'affilée, que tu sentais bien que leur objectif pour réussir la Coupe du Monde, c'était avant tout de sortir des poules. De pas être, je crois qu'il y a que l'Afrique du Sud comme pays organisateur qui est jamais sorti des poules. Donc voilà, c'est quand même la Russie. Historiquement, reste un gros du football mondial, hein. Période URSS. Oui, moi je dis URSS, j'ai pas envie de dire URSS.
Oui, non, mais d'accord. La Serbie est un gros du football mondial parce que c'est la seule héritière de la Yougoslavie. Et le chat est héritier du chat.
Voilà. Non, mais tu lui parles du communisme, il a envie de se suicider. Non, mais voilà, c'est. Même s'ils ont jamais gagné la Coupe du Monde, ils ont quand même fait des belles performances en Coupe du Monde, ça reste historiquement un grand pays de foot. Un peu comme les Pays-Bas, quoi, tu vois. C'est en termes de résultats purs, c'est pas formidable, mais ça proposait des belles choses. Et donc, se faire éliminer de son propre mondial au premier tour, ça aurait été la honte. Donc, tu sens qu'ils ont tout misé sur les deux premiers matchs, et là, les limites et physiques, et tactiques, et techniques. Pourtant, l'Uruguay, c'est quand même une équipe qui a peiné à s'imposer contre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, hein, 2-1-0.
Mais du coup, j'ai une vraie
question. Elle a pas été mise en danger, hein, par contre. Il termine meilleure défense du premier tour, hein, donc.
Mais j'ai une vraie question. Si ça sort des poules, est-ce que c'est 9?
Non, c'est une 8. C'est les 8e de finale.
D'accord.
Bref. Donc la Russie aura la joie de rencontrer le premier du groupe B et le premier du groupe B grâce à la VAR ou le VAR ou le PACA, comme tu veux, c'est l'Espagne.
Oui, d'accord, j'avais pas venir celle-là.
C'est l'Espagne qui s'est... c'est presque une victoire, hein, 2-2 contre le Maroc.
Et les mecs, ils étaient contents. Enfin, en même temps, les Marocains ont pris 7 cartons jaunes. C'est dire si le match devait être sale ou si l'arbitre devait être acheté.
Non, le match était varé.
Non, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il était mal varé?
Non, mais voilà, je comprends les Marocains, quoi. Ils peuvent se sentir... Il y a quand même un sacré paquet de décisions où... Pourquoi là tu fais appel à la VAR et pourquoi là tu ne fais pas appel à la VAR alors que c'est quasiment la même faute, quoi. C'est... après c'est un phénomène Ligue des Champions mais en moins poussé, quoi. Il faut être sûr que les Espagnols ils sont au minimum en demi-finale, quoi. C'est l'arbitrage Barça-Real. Bah là c'est l'arbitrage Espagne, quoi. C'est vraiment dommage parce que les Marocains ont vraiment joué à fond le coup. Alors qu'ils n'avaient plus rien à jouer. Et c'est vraiment dommage, quoi. Parce qu'ils méritaient mieux. Honnêtement, là, j'ai vu le Maroc que j'aurais voulu voir sur les deux premiers matchs. Et que je n'ai pas vraiment vu sur les deux premiers matchs. Ce Maroc courageux qui arrive à faire des choses, qui arrive déjà, les joueurs arrivent à se trouver entre eux, qui a du positionnement.
Je suis pas d'accord parce que contre l'Iran, ils se sont trouvés, les gars. Hein. C'est juste qu'ils n'ont pas été foutus de la mettre dans les filets. Hein.
Oui, mais enfin bon, après il y a quand même, il y avait trop de précipitation. Tu voyais bien, plus le match avançait, plus ils paniquaient parce qu'ils n'arrivaient pas à en mettre un à l'Iran. Et plus tu paniques, plus tu te précipites et moins t'es précis, plus tu rates. Donc
t'es tellement précis que la tête de l'attaquant dans son but, elle était magnifique.
Oui, donc tu vois, t'en es à un point où l'Espagne, qui a quand même des joueurs fantastiques. Mais t'espères qu'elle perde, quoi, parce que t'en as tellement marre. Il y a le phénomène Barça-Real qui est tout le temps en haut, tout le temps avantagé par l'arbitrage. Là, tu sens quand même les médias espagnols, plus chauvin que les médias espagnols, il n'y a pas. Et ils arrivent quand même à dire qu'ils sont premiers grâce à la VAR. Même eux le disent. Alors que c'est les plus chauvins du monde, quoi.
Et ça me rappelle les Néo-Zélandais en rugby, là, qui commencent à dire, il y en a marre que l'arbitrage nous soit toujours favorable, parce que notre équipe n'a pas besoin de ça pour gagner.
Oui, là ils avaient besoin de ça, hein, parce que.
Mais... Et voilà, enfin tu vois, même les médias néo-zélandais commencent à dire ça en rugby. Alors j'ai pas suivi les médias espagnols en football, mais tu te dis que pour qu'ils disent ça en rugby, c'est que c'est quand même énorme. Et si les médias espagnols disent ça, effectivement, je suis d'accord avec toi, plus chauvin qu'un média espagnol, il y a pas.
Je veux dire, là, il y a même un accord entre AS et Marca, quoi, les frères ennemis madrilènes et barcelonais comme journaux sportifs. Donc. S'ils arrivent à se mettre d'accord sur un sujet, c'est vraiment que...
Bah que ça doit être vrai.
Non mais voilà, c'est... Ouais, mais puis, on va y revenir, mais finalement, à la fin, j'ai l'impression que... aucun gros ne va tomber dès les poules, hein.
Parce que le Portugal
a validé son ticket en faisant match nul 1-1 contre l'Iran. Formidable iranien, franchement, ils ont fait un match énorme. Ils ont vraiment fait un match énorme.
Moi, ma vraie question, on est d'accord que le Portugal a été éliminé pendant quelques secondes. Tant que l'Espagne n'avait pas égalisé en fin de match.
Oui. Non, puisqu'ils ont ouvert le score. L'égalisation iranienne arrive à 93e sur penalty. Donc, ils menaient à 0 pendant tout le match.
D'accord.
L'égalisation iranienne arrive après l'égalisation espagnole. Donc. Non, ils ont jamais été en position d'être éliminés, les Portugais.
Alors, je dois confondre avec l'Espagne.
Oui, c'est plus l'Espagne.
Je dois confondre...
Mais après, voilà, tu vois, t'en es là. Après, le Portugal n'a pas démérité, c'était un match costaud, tu vois, hein, parce que les coups, ça pleuvait. Hein. On peut vraiment... Enrique Caceres...
Il y a quand même des cartons, on était à la limite du rouge. Hein,
Non, mais je veux dire, l'arbitre paraguayen, Enrique Caceres... Je m'en moquais dans le précédent, celui sur la deuxième journée, mais il fallait le tenir ce match et il a été constant, tu vois, dans les décisions, dans les prises de décision. Il n'y a pas eu un coup le Portugais qui peut démonter un Iranien, il y a rien, un Iranien qui effleure le Portugais, c'est carton jaune, tu vois. Non, il n'y a pas eu de ça. Mais après, c'est vrai que c'était quand même un match. Tu me diras, ça m'a préparé pour le FC Metz en Ligue 2, hein. C'est de la bonne boucherie de Ligue 2, hein. Mais voilà, c'était combatif, c'était vraiment plaisant à voir. C'était deux matchs plaisants à voir, et c'est là que tu maudis le système de coller les deux matchs en simultané, surtout qu'aujourd'hui, on va en parler quand on évoquera le groupe D, mais t'as vu, tu peux pointer à la minute même où l'Islande a su que dans l'autre match, ils étaient en position de se faire éliminer à cause du résultat de l'autre match. À la minute près, au moment où ils l'ont su, les joueurs, tu le sais. Tout d'un coup, les Islandais, ils étaient plus derrière, ils se sont mis à jouer. Donc, ouais, voilà ce côté. Et puis, de toute façon, tu peux arriver à du trucage parce que tu te dis, tu connais les résultats de tes adversaires quand tu joues.
Ouais, mais tu sais pas ce que l'adversaire de l'adversaire peut faire.
Oui, mais quand t'es là, ils ont joué après, donc ils savaient très bien que s'ils finissaient premier, ils joueraient telle équipe, s'ils finissent second. Et t'arrives à des situations du groupe C. Mais nous y reviendrons après, parce que là nous n'avons pas évoqué. Donc nous aurons Espagne, Russie et donc Uruguay, Portugal.
Bah, Uruguay, Portugal. Alors, il est heureux de mouiller le maillot, Nico. Tu sais que j'aime bien mouiller le maillot, moi.
Uruguay, Portugal, ça peut être vraiment sympa comme match. Ça peut être aussi un peu.
Qui tu vois passer? Parce que là, moi, j'arrive pas à savoir. Tu vois bien un bon vieux 0-0 des familles finir au péno?
Bah avec l'Uruguay, j'en ai peur, oui.
Avec le Portugal, moi j'en ai peur.
Non, mais je pense quand même que Cristiano, il est trop surmotivé pour vraiment faire une grosse Coupe du Monde. Donc je pense qu'il arrivera à sortir l'exploit technique ou le coup franc, enfin tu vois, le truc qui permettra au Portugal de s'imposer 1-0. Parce que c'est quand même deux défenses supra solides. Enfin, supra solides, ils en ont pris 4 les Portugais, mais 3 contre les Espagnols, hein, c'est quand même.
On est bien d'accord que il n'y aura pas plus de 2 buts dans ce match.
Et c'est là que ça finit en 4-3, tu sais.
Oui, c'est ça. Mais on est d'accord que ça va finir à 1-1 maximum ou à 2-0 parce que la deuxième équipe une équipe en plantera un deuxième en contre à la 92e, quoi.
Non, parce que, enfin, je sais pas, parce que quand même de l'autre côté, t'as du Suarez, t'as du Cavani, enfin, t'as quand même des côtés uruguayens, il y a quand même du potentiel offensif.
Ah, Suarez, un mordu de football.
Ça ramène un but à un moment donné, quand même, avec le Portugal. Donc, mais c'est vrai que finalement, quand tu regardes la composition, c'est pas dégueulasse du tout, hein, l'Uruguay, pour construire du jeu offensif. Donc le côté de dire ouais ça va finir avec 2 buts grands maximum, c'est pas sûr. Maintenant ça dépend. Est-ce qu'ils vont se libérer les deux équipes ou alors est-ce qu'elles vont fermer complètement le jeu des deux côtés? Voilà, je pense que ça sera la clé du spectacle.
Ouais.
Par contre bon Espagne-Russie, là je plains vraiment l'arbitre. Hein. Je sais pas s'il a déjà été désigné au moment où on enregistre, mais wow, 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 wow.
Je vois pas les Russes battre l'Espagne.
Ouais, mais là, techniquement, quand t'es arbitre, entre favoriser le pays organisateur et favoriser le favori des favoris, puisque de toute façon, l'Espagne a automatiquement 4 décisions arbitrales en sa faveur avant même le début du match. Hein, c'est dans les... Je crois que ça doit être dans le règlement.
C'est dans les contrats FIFA.
Voilà, c'est dans le contrat FIFA, hein, de toute façon. Ramos a droit de casser 2 joueurs adverses avant de prendre son premier jaune. Donc, ça doit être la ligne à 12 de l'article 48, un truc comme ça. Mais de l'autre côté, c'est la Russie de Vladimir. Donc si tu veux pas que, je sais pas, s'il désigne, admettons, un arbitre, australien, s'il veut pas
un arbitre australien, ça serait bien.
S'il veut pas que sa famille, sa famille qui habite à Sydney finisse dans un goulag au fond de la Sibérie, parce que t'inquiète pas qu'il arrivera à envoyer des agents KGB pour. J'ai confiance. Après, ce qui me gonfle, c'est que, entre guillemets, l'Espagne risque de se retrouver dans la partie de tableau, entre guillemets, facile.
Ben ça, est-ce que c'est pas quand même le hasard, ça? Les mecs, ils avaient prévu qu'il y ait l'Argentine dedans, et il n'y a pas l'Argentine dedans, quoi. Enfin...
D'un autre côté, ils risquent de se coltiner une certaine Croatie en quart de finale, et ça sera une autre paire de manches. Mais nous y sommes pas encore, hein, puisque d'abord, non. Nous devons évoquer The Group C, donc le groupe le plus priori faible, avec un Danemark-France à s'ouvrir les veines, 0-0.
Tu veux vraiment qu'on en parle, ce truc?
Bah, ils ont pas joué, donc on n'en parle pas. Hein. Maintenant, est-ce que t'en veux
là, ça te prépare pas à la Ligue 2, ça te prépare au National 2 dans 2 ans, ça.
Ah non, mais est-ce que... Enfin, je veux dire, c'est ça le problème. Un 0-0 qualifié deux équipes. La France a peu essayé. Le problème, c'est qu'ils sont toujours dans leur mode « on tente de gagner la Coupe du Monde sans faire la moindre course hein. ». Et les Danois, ils étaient bloqués dans leurs 30 mètres. Ils sortaient surtout pas. Hein. Dès qu'ils avaient le ballon dans les pieds, ils balançaient ça, mais à perpète loin devant.
Forcément, un nul les qualifiait.
Voilà. Donc à partir du moment où... Parce que oui, la France a été mauvaise dans le... Mais, je veux dire, Griezmann l'a quand même bien dit, il l'a dit, quoi. À un moment donné, on va pas se cramer pour essayer de leur marquer un but, alors que ça ne sert à rien. Alors c'est vrai que tous les médias reprennent sa phrase-là, et tout le monde dit « Ah, c'est une honte et tout », parce qu'on reprend bien sûr pas la phrase suivante où il dit « J'ai bien conscience que ça a dû être dégueulasse à voir à la télé ». Mais bon, après, voilà, il s'excuse, mais c'est vrai que tous les médias reprennent cette phrase, là, où, je sais plus comment il la sort, mais... bah oui, pourquoi t'allais te fouler, puisque de l'autre côté, de toute façon, ils avaient refusé de jouer au foot, donc... Et donc, du coup, bah, j'ai passé beaucoup, beaucoup plus de temps à regarder Australie-Pérou, où ça allait à 100 à l'heure des deux côtés, hein. Et qui finit
parce
sur une victoire 2-0.
Et les Péruviens voulaient tout faire pour pas sortir dernier de leur poule.
Voilà.
Quoi.
Ils ont vraiment. Ben, ils auraient pu aussi se dire on verrouille complètement contre les Australiens histoire de prendre un point et pas être ridicule. Non, non, ils ont joué à fond la caisse aussi. Ça allait à 100 à l'heure.
Ils ont gagné, je crois, leur premier match en Coupe du Monde.
Je sais pas si c'est leur première victoire en Coupe du Monde, mais ça allait à 100 à l'heure des deux côtés. Et bah tu te demandes quand même au final comment t'as fait pour prendre un but contre les Australiens quoi. Enfin bon certes c'était un pénalty mais je crois que même Metz sans faire exprès ils arrivaient à cadrer plus souvent que les Australiens quoi. Bah je suis méchant hein, parce que cette saison Metz a quand même un des meilleurs buteurs du championnat hein. Je crois que Nolan Roux doit finir dans le top 10 des buteurs du championnat donc
c'est ça.
Et on arrive à finir dernier avec un mec qui doit être 4e meilleur passeur du championnat et un qui doit être 7e ou 8e meilleur buteur du championnat.
Mais le 24e meilleur gardien sur 20 équipes. Au fait, le Pérou a bien gagné sa première victoire en Coupe du Monde, hein, c'est pour ça qu'il jouait.
Ah ouais. Mais voilà, c'était un match, bah là, à l'inverse de la France, c'était vraiment, je te dis, ça partait à 100 l'heure. D'un côté, de l'autre, ça revenait, ça repartait. Jusqu'au bout, ils ne se sont pas du tout posé la moindre question. Et même les Australiens. Qui, même quand ils se sont retrouvés menés 2-0 à la 50e, tu vois, ils auraient pu se dire, bon, ben, ça y est, c'est fini, quoi. Il faudrait que, là, il faut qu'on aille en mettre 3, tout en sachant très bien que de l'autre côté, le Danemark et la France ne jouent pas, donc, ça se terminera en 0-0. Donc, même en cas de victoire, même s'ils s'arrachaient pour gagner 3-2, ils finissaient à 3 points, quoi, et c'était, ils étaient quand même éliminés. Donc, ben, ils ont continué à jouer, quoi. Ça, ça a été beau. Voilà, ça, ça a été un beau match. Et donc, je dis, oui, la deuxième mi-temps, j'ai dû passer 40 minutes sur 45 sur le match de l'Australie-Pérou. Hein. J'aurais jamais parié un centime sur le fait que je passe plus de temps sur un Australie-Pérou que sur un match des Bleus. Hein. C'est dire à quel point le match des Bleus, c'était... Enfin bon, ils ont quand même réussi à faire 15 tirs hein, dans le match en tout, hein, Danois et Français, dont 11 pour la France. 4 tirs cadrés en tout, dont 3 pour la France. C'est le plus faible total hein, de tirs de ce premier tour. Sans grande surprise. Ouais. Mais c'est bien parce qu'on a été la première équipe à bénéficier d'un but grâce à la VAR. On a été le premier 0-0 de ce match. On a battu le record du plus faible
de
nombre
match,
de tirs.
Du monde, tu
oui,
veux dire.
Premier 0-0 de cette Coupe du Monde. On a été la première équipe. On a été l'équipe avec le plus faible total dans le match où il y a eu le plus faible total de tirs. On détenait déjà ce record contre l'Australie. Hein. Donc on arrive à battre nos propres records. C'est bien. Comme quoi, il y a des choses positives à retenir de ce match. Hein.
Ouais, non, c'est bien.
Voilà, on n'a pas encaissé de but.
Sur le plan recordique que recordique, je pense qu'on a fait un bon match et que l'essentiel, c'est la qualification.
Bah oui, c'est ça. Et voilà, bon, il faut retirer du positif, on n'a pas pris de but. C'est déjà bien.
Hormis sur Péno.
On a confirmé que 1, Florian Thauvin ne jouerait pas du tout la Coupe du Monde, que 2, Ousmane Dembélé ne devrait pas jouer du tout le reste de la Coupe du Monde, que 3, Thomas Lemar, c'est vraiment la plus grosse arnaque du monde. Donc oui, c'est... Je sais pas. Thomas Lemar, il avait l'année du titre, il était monstrueux, mais tu sens hein, que le fait que ça a été, comme Fabinho, hein, le mec coincé à Monaco, parce que c'est bon, on avait dit qu'on vendait 7 champions de France, pas plus... Et qu'ils n'ont pas réussi à boucler leur contrat pour se barrer avant, ça leur a pesé, mais de façon Fabinho, il s'en est remis sur la fin de la saison, quoi. Peut-être le dernier tiers de la saison, il s'est remis à avoir un niveau à peu près normal. Mais Thomas Lemar, c'est une catastrophe, hein.
Ah, mais je confirme.
C'est une catastrophe. Et Ousmane Dembélé, bah, c'est le problème du joueur qui a pas compris que le football, c'était pas juste courir le plus vite possible en essayant de dribbler le plus de monde possible, quoi. Et je comprends pas pourquoi Florian Thauvin a pas eu droit à un petit peu de temps de jeu, quoi.
Sinon, Mbappé, il a pas compris non plus que le football, il fallait pas que dribbler.
Ouais, bah, heureusement qu'il était là, Mbappé, hein, parce que ça a un peu bougé les derniers quarts d'heure. Bon, il n'a pas eu plus d'occasion pour la peine, mais au moins, ça a un peu bougé. Et Fekir aussi, parce que Fekir, il se crée quand même deux tirs à lui tout seul, quoi. J'ai cru qu'il allait se faire taper par tout le monde. Oh, d'où tu vas? Toi, t'essaies de marquer des buts, connard.
À la Corse. Non, mais les gars, pourquoi vous tirez au but?
Enfin bon, du coup on termine premier et donc ben c'était soit l'Argentine soit le Nigeria hein, qu'on allait rencontrer. Il y avait une faible possibilité de rencontrer l'Islande, mais alors quand même très faible, puisque là donc la Croatie a été déjà qualifiée et bon mais ils ont verrouillé le truc. Mais tu vois la Croatie était déjà qualifiée, ils auraient pu faire 0-0, tu vois, comme la France. Non, ils ont joué à fond le coup, enfin à fond le coup. C'est-à-dire que les Islandais étaient quand même très très limités, mais les Croates, ils ont joué. J'ai adoré les stats, je crois que c'était à la 16e minute. Il y avait 24 passes du côté islandais et on devait être à 116 passes du côté croate, un truc comme ça. J'ai juste halluciné en voyant la stat, quoi.
Les Islandais. T'as vu la stat pour ma part, mais.
Les Islandais étaient incapables de faire deux passes d'affilée, c'était une horreur. Les Croates avaient la mainmise totale et ils se faisaient plaisir, tu vois, dans le jeu. Ils tentaient des choses et tout. Et au final, ils s'imposent 2-1, mais ils ont eu très très chaud, hein, parce que l'Islande a égalisé sur penalty, heureusement, et donc il a fallu attendre le but de Perisic à la 90e pour que la Croatie l'emporte. Bon, après, ça ne changeait rien, hein, la Croate était quand même qualifiée premier, même...
Et avec une victoire de l'Islande, est-ce que l'Argentine n'était pas dehors?
Avec une victoire de l'Islande, l'Argentine aurait pu être dehors.
À cause de la différence de but, quoi.
Oui. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Les Islandais, ils ont vraiment essayé, mais t'as vu que c'était pas leur concept hein, d'attaquer. Parce que les attaquants,
On l'a vu contre le Nigeria, et on l'a dit contre le Nigeria. L'Islande était incapable d'attaquer, il y avait rien en avant.
Ah si, ils attaquaient. Mais après, une fois, c'est bien gentil de se créer des situations de tir. Mais il faut les cadrer. La quantité de balles qu'ils ont complètement foiré dans le dernier geste, elle est hallucinante aussi. Hein. Et c'est vrai que tu te dis, heureusement qu'il y a eu un penalty, hein, sinon je pense qu'on pouvait jouer pendant 4 heures, ils n'auraient pas marqué un but hein, dans le jeu. Mais il faut dire aussi, c'est Subasic en face. Enfin, je sais pas si c'était Subasic sur ce match, il me semble que... c'est ça aussi, j'étais surpris, j'ai vu la composition croate, j'ai fait, putain, il fait pas tourner, quoi, enfin, le mec. Bon, il a quand même daigné faire sortir Modric à la 60e, quelque chose comme ça, mais... elle est quand même alignée. C'était Kalinic. C'était Kalinic, mais comme j'ai pas vu la composition des équipes et qu'il a à peu près presque la même tête que Subasic, ça pourrait être deux frères jumeaux. Hein. Mais il a quand même fait jouer des bonnes parties de son équipe titulaire, quoi, plus que la France en tout cas. Donc les Croates ont vraiment joué le jeu. Et de l'autre côté, un Argentine-Nigeria où c'était très faible, hein. Techniquement.
Putain,
c'était...
mais même l'Argentine qui se qualifie à cause d'un défenseur, quoi. Putain, mais les gars, tenez jusqu'au bout.
Par contre, le but de Messi est juste, mais magnifique. Tout est parfait. L'ouverture de 50 mètres dans la profondeur, le contrôle dans la course de Messi, la frappe enchaînée, c'est juste. C'est vraiment un bijou ce but. C'est vraiment
un bijou.
Ce qui
veut dire que quand il est dedans.
Ah bah t'as bien vu, hein, dès le début du match, j'ai fait oh putain il court Messi. Depuis quand il court Messi? Ça fait 3 ans et demi qu'il a plus couru sur un terrain de foot quoi. Et c'est un peu t'as un peu retrouvé le Messi de l'avant-dernier match de la poule d'Amérique du Sud quoi. Tu sais celle où s'ils gagnaient pas l'Argentine, ils étaient éliminés de la Coupe du Monde. Enfin ils n'allaient pas à la Coupe du Monde et qu'il t'a placé un triplé.
Ouais.
Je me bouge le cul, quoi. Quand j'ai envie de me bouger le cul, je me bouge le cul. Et après, franchement, le Nigeria, ils ont pas paniqué, ils ont continué à jouer leur... Mais après, c'est une équipe très jeune, le Nigeria, et t'as vu qu'il y a les limites de jeunesse. Je pense que c'est une équipe qui se prépare pour la Coupe du Monde 2022, en fait. Parce que ça sera... ils auront un groupe qui arrivera à maturité vraiment en 2022 et mais c'est quand même physiquement c'est très fort. D'un autre côté, j'étais en train de dire heureusement que c'est pas les Nigérians qu'on va tirer hein, parce que waouh, les Français auraient été obligés de courir. Là, c'est bien hein, contre les Argentins entre Mascherano qui peut plus courir, Messi qui veut pas courir, on est tranquille hein, ça va être un match pépère hein, le 8ème. Mais
t'es un peu trop sûr de toi à mon avis.
Ah non, il y aura un rythme de sénateur dans ce 8ème de finale. En plus, t'auras deux équipes qui voudront pas prendre de risques. Parce que les Argentins, t'as bien vu, hein, quand ils ont mené 1-0, ils ont commencé à essayer de fermer le jeu avec les limites. Heureusement, les Nigériens pouvaient compter sur Mascherano, hein, qui, je sais pas pour quelle raison, avait décidé d'enterrer le joueur nigérian sur corner. Ah bah, il l'a bien tiré, il l'a bien tenu, et quand il tombait, il le poussait encore vers le sol, quoi. Et après, les Nigériens, deuxième mi-temps, ils avaient tout compris, hein, il faut attaquer sur Mascherano. Le pauvre, il était totalement à l'agonie, quoi. Bon, j'espère juste une chose, c'est que Sampaoli continuera à adorer Mascherano et continuera à l'aligner, hein, parce que je pense que ça risque d'être un régal pour Mbappé.
Je te rappelle qu'en Argentine, officiellement, Mascherano est là, mais qu'il a très clairement été avoué par le président de la Fédé que c'était les joueurs qui décidaient. Hein.
Bah, c'est clairement pas. T'as eu la vidéo où t'as Sampaoli qui appelle le Messi et qui lui dit « Je fais rentrer ou pas le Kun ?» Voilà. Et il le demande à Messi « Je le fais rentrer ou pas ?» Mais putain, t'es le sélectionneur, quoi. Tu l'envoies chier, normalement. Mais bon, là, je pense que Sampaoli, il tient tellement à sa vie et à sa famille que, j'ai totalement décidé d'abandonner, hein. Dominic Style en 2006.
Ah, mais il se fait virer après la Coupe du Monde, hein, lui.
Oui, mais là, je pense qu'il a envie que quand même l'équipe aille suffisamment loin pour que lui et sa famille restent en vie. Parce que rigole pas, mais là-haut, en Argentine, c'est comme en Colombie, tu risques littéralement ta vie. Ils sont tarés. Il y a certains supporters là-bas qui sont tarés, qui te menacent. Et c'est pas des menaces de mort dans le vent, comme on pourrait avoir certaines fois en France. Donc je peux comprendre. Et donc du coup, tu confies les clés du camion à Messi, comme Domenech l'avait fait en 2006. Sauf que Domenech ne risquait pas grand-chose pour sa famille. Surtout qu'il n'avait pas encore demandé en mariage Estelle Denis à l'époque.
Non, ça c'était à l'Euro 2008.
Voilà.
On a perdu, mais Estelle, peux-tu m'épouser?
Puis en plus, Domenech, c'est dangereux, hein, parce que quand tu vois, si t'es à un certain âge, t'as connu les matchs de Domenech, tu sais que lui, il tacle à la gorge, hein. Mais donc voilà, c'est l'Argentine, après, ouais, franchement, vu comment le match tournait et tout, les deux équipes méritaient de le gagner, ce match, quoi. Aucune n'a vraiment fermé le jeu, mais les faiblesses des deux côtés,
Espérons pour nous que ça passe, mais j'en serais pas si sûr. Hein.
Du coup, on va d'abord parler du Croatie-Danemark. Mais je pense que les Danois risquent de se faire surexploser hein, par les Croates.
Là, Sauf si les Croates se disent oh putain, match à élimination directe, on ferme.
Ouais, ou que justement d'avoir trop joué et pas fait énormément tourner sur le dernier match. Que physiquement ils commencent à accuser un peu le coup hein, parce qu'ils ont quand même fait trois gros matchs hein. Le match contre l'Argentine physiquement ils ont beaucoup donné hein, donc les Nigérians ils arrivaient tout frais, ils couraient beaucoup, donc oui ils peuvent physiquement peut-être un peu accuser le coup et face à une défense danoise qui va évidemment jouer ultra regroupée et bétonnée à mort, ils risquent de se casser les dents et peut-être de plus avoir cette fraîcheur en fin de match pour faire la différence.
Ça, tu vois, c'est le type de match qui peut finir aux prolongations ou aux tirs au but si les Croates n'arrivent pas à jouer.
Voilà. Si les Danois les font déjouer, soit ça peut être le match qui peut être quasiment plié à la 20e avec 2-0 pour la Croatie, soit ça peut être le match qui, comme tu dis, qui avec un 0-0, qui s'éternise et t'as un but improbable venu du fin fond du match, quoi. À la 94e, sur une décision douteuse de la VAR ou à la 118e, tu vois. Je partirais quand même plus sur une Croatie qui faiblirait physiquement en quart. Pour le coup, en huitième, je les vois gérer tranquillement le Danemark. Et donc, avant cela, nous aurons donc samedi à 16h un petit France-Argentine. Un France-Argentine qui fait rêver sur le papier et qui fait pas du tout rêver en réalité, quoi. Tu dis si la France démarre enfin sa Coupe du Monde et se met à jouer, je vois pas comment les Argentins peuvent battre la France. Je vais être clair.
Moi, j'espère voir la France passer. Hein.
Mais... Je veux dire, là, tu étais sur une Argentine qui était obligée de sortir un gros match, qui était obligée de gagner. Et ils ont été mais très limités. Tout repose sur, encore une fois, Lionel Messi.
Et tu vois, mais s'ils décident de jouer face à la France parce que c'est la France et que ça fera au moins un adversaire prestigieux de battu.
Non, ils ont pas le physique pour. Pour moi, ils ont pas le physique pour tenir 90 minutes de groupe. France, je veux dire, Allemagne, Belgique, enfin, tu vois, une vraie équipe. Parce que, par exemple, voilà, l'équipe, elle était à 1 partout à la 76e. Messi ne courait pas du tout. Il a pas fait l'accélération, l'effort, le truc pour aller forcer la décision parce qu'il pouvait plus. Donc mais comme tu dis, est-ce que la France va enfin démarrer sa Coupe du Monde? Enfin, je veux dire, ça fait quand même déjà 3 matchs plus 3 matchs de préparation qu'on attend qu'elle se mette à jouer. Est-ce qu'elle le fera ou pas? Mais bon. Nous, on a la chatte à Dédé. Et les Argentins, ils ont le malaise à Diego. Bah, ça va, ils ont le malaise à Diego, quoi. Voilà, c'est ça. Pauvre Diego, tant d'émotions, la qualification qui nous a fait un malaise, là, il a failli y rester, quoi. Ou alors, il s'est rendu compte, putain, j'ai été filmé en train de faire des doigts d'honneur.
Ou alors, sinon, il surjouait le malaise aussi, oui.
Ah, non, mais quand Messi a marqué le but, il en a fait des tonnes, hein, dans les tribunes. Il savait très bien qu'il allait être filmé et qu'il voulait sa part de gloire sur le coup, quoi. Il y a bien une personne au monde qui veut pas que l'Argentine gagne, c'est bien Diego Maradona. Hein.
Oui, pour être filmé. Pour être filmé.
Non, parce qu'il restera toujours le dieu vivant argentin. Mais si Messi remporte la Coupe du Monde, vu le palmarès de Messi en club, en comparaison de celui de Diego, voilà, pour l'instant, Diego, c'est le dieu vivant, quoi. Il va pas perdre son statut, mais il va être terni. Un peu comme Platini était le dieu vivant jusqu'à ce que Zidane arrive. Aujourd'hui.
Il marque 2 buts en finale de Coupe du Monde.
Voilà. Aujourd'hui, Platini, ça reste toujours un grand joueur, mais c'est plus la référence du football français. C'est devenu Zinedine Zidane, quoi. Donc, je pense que Diego.
Bon, ça dépend, hein. Pour tes parents comme pour les miens, c'est Zidane. C'est Platini, je veux dire.
Ouais, mais. Oui, peut-être. Peut-être, oui.
Je pense que c'est une question de génération.
Ouais, enfin, je crois. Après, je parle sur le plan, ouais, générationnel, ouais, mais je suis pas persuadé parce que. Mais je sais pas. C'est possible. Possible qu'il y ait un effet générationnel qui joue. Mais bon, on verra bien.
Et puis bon, c'est les joueurs que tu vois marquer ta jeunesse, en fait, qui font que tu les considères.
Non, puis je pense que l'équipe de France, elle se mettra en route contre cette Argentine parce que des mecs comme Pogba ou Mbappé, ils voudront briller. Alors, le problème, c'est qu'il faut pas qu'ils la brillent perso, quoi, c'est tout. Et si Pogba il pouvait jouer comme Modric, oh putain. Alors là, on aurait une équipe de feu. Ça, tu vois, c'est ça qui me fait peur. D'un côté, je me dis, ça peut motiver les Français à se dire, on va sortir Messi. Ça fait quand même super classe, hein, sur le CV. Mais le problème, c'est que j'ai peur que du coup, il se la joue ultra perso pour être le joueur qui marque le but, qui sort Messi, quoi. Et ça, là, en France, on a cette tendance à vouloir être le héros national et on oublie que le foot, ça se joue à 11 et pas... à un tout seul, quoi. Enfin, on verra bien.
Ouais, remarque, Varane avait oublié en 2014 que... C'était Varane ? Oui, c'était Varane en 2014 ?
Varane, bah, il a bien laissé... Tiens, vas-y, mets ta tête à l'allemand.
Mais c'est ça, hein, c'était Varane en 2014.
Qui
oublie l'allemand complètement, Mathieu Mulls, je crois.
Bah, il l'oublie pas, c'est qu'il ose pas trop sauter, quoi. Attends, oh, il va sauter. Il me fait peur, lui. Ouais, mais tu vois, t'as Mathieu Mulls, c'est quand même une belle armoire, il saute et tout. Varane, il était tout jeune à l'époque, il devait avoir 21 ans, quelque chose comme ça. 3 Ligues des Champions au moins, son palmarès. Et tu vois, quand même, sur cette dernière saison, il a été obligé, entre guillemets, je pense, forcé au Real de prendre plus d'ampleur, et devenir plus patron de la défense, parce que ben Ramos commence à accuser son âge. Hein. Attends, c'est Ramos ou Piqué? Putain, merde, je sais plus.
Non, c'est Ramos.
Oui, c'est Ramos. Piqué, c'est lui qui a appris à Umtiti comment être moins bon, en fait.
C'est ça.
Tout ça en prévision du quart de finale de Coupe du Monde France-Espagne. Mais ça n'arrivera
pas. De son divorce avec Shakira.
Ça n'arrivera pas, puisque si on sort l'Argentine, on rencontrera le vainqueur de Uruguay-Portugal.
Putain, on n'a quand même pas un tableau cadeau.
À Nijni Novgorod. Pourquoi Novgorod, il n'a pas un club en Europa League? Je me serais entraîné à dire comment ça se prononce.
C'est ça.
Oui, d'ailleurs, c'est quel club qui joue au stade de Nijni Novgorod? Hein?
C'est Nijni Novgorod.
C'est le Volga Nijni Novgorod et l'Olympiets Nijni Novgorod. Ouais, copropriétaire du Nijni Novgorod. Et donc, ouais. Voilà. Eh ben, on se retrouvera très vite pour la suite donc de cette troisième journée où nous analyserons les performances de notamment du Corée du Sud Allemagne que je suis ultra pressé de voir.
Idem. Et puis on se retrouvera un peu moins vite, mais on se retrouvera quand même après les huitièmes de finale.
Avec un petit 0-0 de la honte entre le Mexique et la Suède pour sortir l'Allemagne qui sera battue 2-0 par la Corée du Sud.
On y croit.
Non, on y croit. Ouais. Oui. Bah, il fallait que je termine sur une vanne pourrie, j'en avais pas encore fait dans ce numéro.
Non, mais là, elle était pas pourrie, elle était juste naze, celle-là.
Allez, merci Yann.
Et on espère le deuxième match de Clément Turpin dans cette Coupe du Monde.
C'est beau les rêves.
Oui. Remarque, en 14, il en avait fait deux, là, il va en faire un.
J'ai envie de dire qu'en 14, il avait tenu bon, il s'était bien retranché derrière son arbitrage, quoi. C'est ça qui l'a sauvé.
Ouais.
Ouais, non, j'aurais pu mieux la tourner, elle aurait pu être plus efficace, mais bon. Tant pis.
Il aurait pu être plus clément avec les joueurs, non? Là, tu vois, c'était un peu mieux.
Ouais, je sais pas. Mais
parce est-ce que j'ai dit avec Turpin, c'est qu'il a toujours ce côté jeune alors qu'il a 40 piges.
Ouais. Ce qui est bien, c'est que Turpin, personne ne le sait, mais il y a un seul moyen de l'acheter, c'est en lui offrant des clémentines. Non, bon, toujours pas.
Ok, il est temps d'arrêter ce pod, je crois.
Ouais. Et donc, n'oubliez pas, on touche pas à mon grisou, hein, comme dirait Paul. Et à bientôt.
À bientôt, Nico.
À bientôt, Yann. Ah là, tu devais enchaîner à bientôt, Nico. Ça, je faisais à bientôt, Yann.
Oui, c'est ça. Non, mais je le voyais venir, donc j'ai un peu arrêté.
Oui, donc pour le prochain footpod, tu retires tes lunettes, hein, d'accord? Comme ça, tu les vois pas venir.
Comme ça, je le vois pas venir, d'accord. Oh, putain.
Voilà, j'ai réussi à en placer une pas trop pourrie. Et tu vas la couper au montage, je le sens gros comme une maison.
Non, promis, je la laisse. Donc du coup, promis, je laisse ça aux auditeurs aussi.
Allez, bye bye.
Ciao.